Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est bien.
C'est un beau film de gangster.
C'est un beau film,
c'est un beau film de gangster.
Ouais, ah, très bon.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, version courte mais efficace, ça s'appelle l'Extra Ball, c'est notre manière à nous de mettre en lumière un film ou une série qui nous avait échappé ou la ressortie d'un grand moment de cinoche, comme c'est le cas aujourd'hui puisqu'on va parler de L'Impasse de Brian De Palma qui refait un tour par les salles obscures. C'est l'occasion rêvée de l'évoquer avec mes camarades Yannick Tarrant, salut Yannick, et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Allez, c'est nos ciné, Extra Ball spécial L'Impasse et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
L'Impasse Carlito's Way en VO, c'est sorti en 1993 à l'origine et c'est l'histoire du truand Carlito Brigante, Al Pacino évidemment, qui sort de prison après 5 ans derrière les barreaux grâce à son copain avocat David Kleinfeld, c'est Sean Penn avec une touffe de cheveux absolument mémorable, et Carlito va tenter de se ranger des bagnoles mais malheureusement sans succès. Alors par où est-ce qu'on commence pour en parler? Il a pas marché à sa sortie, il me semble. C'est un échec, Stéphane.
Non, c'est un film qui n'a pas marché à sa sortie en salle. Il faut replacer un petit peu dans le contexte dans la carrière de De Palma. C'était après l'échec au box-office du Bûcher des Vanités, qui était censé être un très très gros film pour Warner quand c'est sorti en 90. Il y avait quand même Tom Hanks.
Il avait coûté assez cher.
Très cher, Bruce Willis, Melanie Griffith, qui étaient tous des stars à l'époque. Et évidemment, le bouquin de Tom Hanks, qui était un best-seller et qui a été acheté très cher. C'est un gros beat. J'aime beaucoup le film. C'est une grosse farce sur le yuppisme. Je pense que c'est un film qui est peut-être arrivé 3-4 ans trop tôt. Et en fait il a enchaîné, il s'est dit bon bah je vais me refaire un peu et je vais faire un petit film à la De Palma derrière, un petit truc à la pulsion, à la obsession, tout ça. Et en fait il a fait l'esprit de Cain qui est un four, hein, un ratage total quoi, qui est un des de cette époque là en tout cas un des rares vrais navets de la carrière de De Palma quoi, où tout ce parce que le cinéma de De Palma c'est toujours à la lisière du ridicule, et là en fait ça tombe en plein dedans quoi. Voilà, et le film il va à fond. Donc il y avait une idée de se refaire aussi encore une fois avec Carlito's Way, parce que c'était 10 ans après Scarface, un film de gangster de nouveau avec Al Pacino, mais il faut rappeler que Scarface n'avait pas marché non plus à l'époque, enfin pas tant que ça en tout cas quand c'est sorti quoi.
Il avait une aura, et tout le problème
justement c'est que je pense que les spectateurs qui donc ont redécouvert Scarface attendaient de nouveau Scarface avec et quelque part c'est Scarface 2. Mais ce n'est pas Scarface.
Ouais, c'est pas Scarface.
Parce que le truc, c'est qu'en fait, en gros, c'est quoi Carlito Brigante? C'est Scarface qui ne meurt pas à la fin et qui va en taule et qui se dit ok, il faudrait peut-être que je me remette en question en fait sur ma vie quoi. Bon, j'exagère, hein, t'as pas le même setting non plus, tous ces trucs là.
Mais c'est un ancien trafiquant de drogue qui se retrouve en taule effectivement, normalement pour 30 ans, et qui sort au bout de 5 ans.
Ça joue pas sur le fantasme, tu vois, tu veux jouer à la vache.
Non,
c'est complètement le contraire.
Et le truc, c'est un film extrêmement mélancolique sur un mec dont le seul rêve, et tout le monde se fout de sa gueule en fait pendant tout le film, c'est je veux récupérer 75 000 $ pour avoir une concession de voiture en Floride. Et là tout le monde le regarde, et la seule personne en fait qui a grâce à ses yeux, c'est son ex petite amie, l'amour de sa vie quoi, qui dit ouais ok, je veux vivre ce rêve avec toi quoi. Et ce rêve, c'est un panneau publicitaire qui est affiché au début du film et à la fin, et qui est le Welcome to Paradise quoi, voilà. Donc c'est un film qui est miroir quand même avec Scarface. Il y a beaucoup de Palma, c'est quand même un cinéaste, avant même qu'on puisse utiliser le terme à l'époque, c'est quand même un cinéaste méta. C'est un mec qui a énormément de conscience de sa propre mise en scène, qui fait les choses aussi à l'époque en tout cas de façon très intuitive malgré tout, mais qui pense beaucoup ces choses. C'est un des premiers films à l'époque qui utilisait la prévisualisation pour la mise en scène, donc c'est pour ça que c'est extrêmement travaillé. C'est pour ça que t'as des plans séquences de dingue. T'as un plan séquence dans Grande Centrale à la fin techniquement c'est juste un jeu de chat et la souris entre Al Pacino et deux trois personnes qui le poursuivent, et c'est d'une tension alors que c'est un plan séquence en fait, c'est sans filet quoi. C'est une tension absolument incroyable quoi. Et puis comme toujours, en fait, dans le plan séquence, il y a l'idée, c'est pas seulement le plan en soi, hein, ce qui se déroule, mais c'est le moment où il commence et le moment où il se termine, quoi. Et donc là, c'est hyper, hyper contrôlé, hyper maîtrisé. Et donc voilà, et c'est un des films les plus ouvertement sentimentaux, en fait, de Palma aussi. Hein. C'est un vrai film. Voilà. Moi, il y a un petit défaut que j'ai toujours du mal à gommer. Alors, j'ai beau avoir vu le film.
C'est les cheveux de Sean Penn.
Non, moi je trouve Sean Penn formidable dans le film.
Ah,
quoi.
Mais oui, il est extraordinaire. Mais quelle coupe de cheveux.
C'est plutôt l'actrice dont j'ai oublié le nom là d'un coup. Là,
Un flic à la maternelle est joué.
Ouais, Penelope Ann Miller.
Oui, c'est ça.
Voilà, qui était à l'époque la pouliche.
C'est
de...
vrai qu'elle jouait dans Un flic à la maternelle. Ouais.
Dans The Shadow aussi. Ouais. Et qui était à l'époque était la pouliche du producteur là, Martin Bregman, qui était sa compagne. Donc il l'a casé un peu dans toutes ses grosses productions. Et on va dire que c'est pas une très grande actrice. Tu vois, donc malheureusement, je trouve qu'elle tempère un petit peu l'aspect émotionnel du film. Ceci étant dit, Al Pacino est absolument remarquable dans le film. C'est, comme disait De Palma, c'est un trésor national pour les acteurs, quoi. Et effectivement, le fait de faire un extra dessus, c'est vraiment pour dire, voilà, si vous n'avez pas découvert ce film en salle, c'est un pur moment de cinéma, c'est-à-dire de mise en scène, quoi. Vraiment, c'est hyper travaillé. C'est splendide, comme t'as plus de films qui sortent comme ça depuis des années, quoi.
Mais c'est d'ailleurs ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais quand tu disais que c'était le film le plus sentimental de Palma. Il y a quelque chose, il y a justement une espèce de contraste, mais alors c'est une interprétation, je suis pas dans la tête de Palma, et évidemment, comme disait Steph, De Palma est extrêmement conscient de son talent et de sa mise en scène, et alors à la fois tu as ce monument de réal avec pas simplement le plan séquence, tout le monde se rappelle de la scène du billard au début, alors pour le coup le mec il travaille autant dans le plan séquence que dans le découpage de manière totalement hallucinante, hein, avec des jeux sur les reflets, des trucs qui en disent long sur les personnages, et c'est vraiment brillant, et en même temps au service d'une narration qui est presque pur dans le sens presque naïf, j'entends. C'est-à-dire que ce qu'on lui a beaucoup reproché aussi à l'époque, je m'en rappelle, c'était qu'on lui disait limite c'est cucu ton film, quoi. Tu vois, toutes les scènes justement avec Penelope Admiller sous la pluie, quand elle danse, qui sont un peu des images d'Épinal et qui contrastaient tout d'un coup avec cette volonté d'être ultra perfectionniste dans la réelle. C'est marrant, c'est que du coup, t'as deux tonalités dans le film. T'as à la fois la jouissance de l'instrument que j'utilise à des fins de genre. Dans un pur film de gangster, et à côté de ça, je te fais du premier degré. Faut pas oublier qu'il y avait beaucoup à l'époque de films qui jouaient sur la carte postale, mais qui jouaient sur cet effet d'un ailleurs rêvé. Bon, de manière ironique, tu l'avais déjà dans Barton Fink un an ou deux avant. Tu l'as dans d'autres films à cette époque-là. Ça témoigne quand même d'un truc qui était intéressant sur une espèce de parcours de rédemption du personnage, mais qui est fait de manière ultra simple, ultra basique. Mais et ce contraste-là est vachement étonnant. Avec
c'est un contraste, c'est un film qui est dans l'entre-deux, parce qu'il y a un sentiment, ce qu'il faut spécifier en fait aussi pour peut-être les quelques personnes qui peut-être nous écoutent et l'ont pas vu, quoi. C'est un film qui commence sur la mort du personnage, vraiment, qui te retrace en fait comment on en est arrivé là. Et plus le film avance, et plus il y a cette logique de ce que Carlito veut, c'est-à-dire cette carte postale, qui est exactement ce que Scarface veut quand il dit The World is Yours, quand il voit le monde est à toi, le monde t'appartient, sur le dirigeable qui passe, qui passe au moment où il prend le pouvoir, quoi. Et à la fin, qui se ramène à la fin quand il meurt, quoi. Là, c'est la même logique, en fait, sauf que c'est Welcome to Paradise, c'est ce qu'il veut. Le mec, il veut un paradis, en fait, auquel il n'a pas forcément droit. Et en fait, t'as toute une espèce de logique entre paradis et enfer dans le film qui est mis en avant et qui joue avec un sentiment d'inéluctable. Il y a cette scène avec Benny Blanco, From the Bronx, qui est joué par John Leguizamo, où à un moment donné, parce que le type se comporte mal, ils le prennent et en fait l'idée c'est que le Carlito d'avant l'aurait tué. Ouais. Sauf que là, en fait, si tu veux, t'as, et c'est extrêmement symbolique, hein, c'est un fonctionnement, c'est chez De Palma, ça fonctionne toujours comme ça. Là, dans cette scène-là, t'as un gros plan sur Pacino qui s'apprête à le fumer, quoi. Et en fait, il est vraiment entre paradis et enfer. C'est-à-dire que t'as une imagerie, la moitié de son visage est couvert par le rouge, quoi, et l'autre partie qui est complètement blanche. Et en fait, il est vraiment dans l'hésitation. Est-ce que je le bute ou est-ce que je le bute pas? Et comme en fait, il veut changer, comme il veut justement se prouver à lui-même que il n'est plus la personne qu'il était avant d'aller en prison, bah, il le tue pas, mais il le
maltraite.
Il le maltraite et ça va lui revenir à la gueule. Ça va lui revenir à la gueule, c'est ça le truc en fait. Et tout ce sentiment totalement inéluctable du film, c'est aussi ce qui rend le film extrêmement fort émotionnellement. C'est-à-dire que si on savait pas en fait comment le film allait se terminer au moment où on est en train de le regarder, si on n'avait pas cette notion, on serait pas en train de se dire putain, il faut qu'il s'en sorte, il faut qu'il s'en sorte. Tu jouerais pas avec l'aspect totalement émotionnel du personnage, quoi. Tu as toute l'identification que construit De Palma sur le personnage. Et du coup, c'est un film sentimental. C'est un film effectivement extrêmement osé dans tout ce qu'il essaye, mais c'est une vraie tragédie aussi, quoi.
C'est une tragédie, et voilà. Ouais, et puis c'est un miroir un peu, c'est un miroir assagi de Scarface, si tu vois. Par rapport typiquement,
je ne suis plus Scarface. Voilà, c'est ça, non, la logique,
c'est
ça, du truc.
Je ne suis plus Scarface. Et puis le rêve de Scarface, qui était déjà violemment attaqué dans le premier film, puisque c'est une success story ou un rêve américain, si tu veux, cocaïné, ultra violent, et que là c'est l'exact inverse. Donc forcément, c'est à la fois un anti-Scarface, mais à la fois un miroir, quoi, une autre possibilité, et une autre façon d'attaquer ce que stigmatisait Scarface d'une autre manière. C'est en ça que ces deux films parallèles qui sont vraiment intéressants.
Et puis à mon sens, il y a un truc aussi, ce qu'on mettra jamais assez en avant, c'est que c'est un des films, c'est une des plus belles reconstitutions du New York des années 70. Quoi. Moi, si j'avais une machine à voyager dans le temps, j'irais tout de suite dans cette époque-là. Parce que dans Carlito's Way, parce que c'est vraiment hyper bien retranscrit et le feeling est extrêmement là. Enfin, est vraiment là. Et le truc, c'est qu'il joue aussi. Enfin, c'est quand même un soundtrack avec beaucoup de disco, beaucoup de trucs comme ça, où normalement, enfin, c'est quand même pareil. Encore une fois, c'est très ringard de faire une tragédie avec ce genre de musique.
Mais ça fonctionne.
Et en fait, ça fonctionne totalement parce que voilà, le processus d'identification au personnage est poussé à l'extrême, mais extrêmement fort. Il fonctionne très très bien. Et voilà, donc ouais, ça, si, franchement, ça ressort en salle. C'est à voir.
Sur grand écran, l'impasse donc de Brian De Palma. Merci à tous les deux. Merci à Jules, à la technique et autant que pour l'accueil. Rendez-vous sur nosciné.com pour retrouver toutes nos anciennes émissions. On rappelle que Nosciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio. À retrouver aussi sur binge.audio. Et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Jean Z, No Game, c'est votre émission hebdo sur les jeux vidéo qu'on aime.
J'adore les phrases dépassant, je pourrais les écouter pendant des heures.
Qu'on déteste.
C'est horrible, les personnes, moi j'ai l'impression que c'est un simulateur de con, quoi.
Ou les deux à la fois. No Game que vous pouvez retrouver sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. À la semaine prochaine.
Hey marketers, advertisers and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines. Maybe it's time to podcast, then net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.